à voix nue. Toute cette semaine, Jean-Michel Dian rencontre Christiane Taubira. Ce soir, l'utopie et l'idéal.
Christiane Taubira, on va en venir aux traces que vous allez laisser. Et ce sont des lois, en particulier celle du 21 mai 2001, reconnaissant l'esclavage comme crime contre l'humanité. Vous avez mené ce combat personnellement en qualité de député, vous l'avez gagné. Est-ce que cette loi clôt définitivement quelque chose ?
Je pense qu'elle ouvre autre chose. Elle ouvre autre chose. Elle clôt sans doute quelque chose, mais elle ouvre autre chose. Ma personne n'est pas en cause. Et c'est pour ça que j'ai pu le faire. Si ma subjectivité, mon affectivité avait été la colonne vertébrale de cette action législative, je pense que j'aurais échoué. Ma personne n'était pas en cause pour deux raisons. La première, c'est parce que j'avais découvert cette histoire parce que je ne l'ai pas apprise à l'école, mes enfants non plus d'ailleurs. Je ne l'ai pas apprise à l'école, je l'ai découverte parce que je traîne dans les librairies, dans les bibliothèques et que je suis tombée dessus comme ça par hasard. Je suis tombée sur cette histoire de la traite et de l'esclavage, j'ai vu que c'était d'une extrême violence, j'en ai éprouvé une souffrance terrible, mais je n'ai pas compris tout de suite que j'étais concernée par cette histoire. Et puis à force de lire, j'ai fini par comprendre que j'étais concernée par cette histoire. C'était une violence inouïe.
Un exemple.
Pour moi, j'avais appris rapidement quand même le commerce triangulaire. Hein, mais juste, voilà, commerce triangulaire, un itinéraire sur une carte, et puis c'est tout. C'était plus que ça, mais enfin, je n'avais retenu que cela. Je découvre que le commerce triangulaire, c'est vraiment... Il y a un moment où, à travers les lectures, les choses deviennent charnelles. C'est-à-dire que ce ne sont plus des concepts, ce ne sont plus des traces, ce ne sont plus des lignes, ce sont des bateaux avec des gens qui embarquent, avec des fusils, avec des barres de fer, avec ce qu'on appelle la pacotille, qui quittent des côtes européennes, voilà, des côtes physiques, des ports, avec la mer qui a des vagues qui bougent, qui fait du bruit, qui traverse, ça prend des jours, ça prend des semaines, qui arrivent en Afrique. En Afrique, c'est un continent, il y a des gens qui vivent. On capture à l'intérieur, dans les villages, on met le feu. On attrape des hommes, des femmes, des enfants. On les entrave, on les fait traverser, arriver à la côte. Les gros bateaux n'arrivent pas jusqu'à la côte. Donc ce sont des canaux qui vont les transporter jusqu'à la côte. Et puis ils vont où ? Ils traversent l'Atlantique. Ils viennent aux Amériques. Bon, les Amériques, tout ça c'est lointain. Et puis un jour, ça n'est plus lointain. Il y a un jour, c'est le continent où je suis née. Il y a un jour où les Amérindiens, ce n'est pas juste des images exotiques avec des gens avec des plumes qui dansent. Ou les éternels vaincus des westerns. Il y a un jour où les Amérindiens sont des personnes qui vivent chez moi et que je vois physiquement. Il y a un jour où à travers les livres, les Bushinengués en Guyane sont de type africain. Parlent une langue et ont des vénérations et des adorations et des références divines qui sont communes à des cultures africaines. Il vient un jour où le métissage, ça veut dire tout simplement un mot pauvre de la créolité, de la créolisation, des créoles, donc des gens comme moi. Il y a un jour où ça... Je me ramasse ça en plein visage. Je ne sais pas par quel chemin. Je ne pourrais même pas vous dire quel livre exactement. Je pense une accumulation de choses, c'est-à-dire une connaissance, un savoir, des informations qui s'agrègent, qui s'articulent, qui s'enlacent, s'entrelacent et qui, à un moment, prennent forme, prennent cohérence et me disent... Tu viens de la traite, de l'esclavage et de ce qui s'est passé après. Et tu viens d'avant la traite et l'esclavage. C'est-à-dire que tu portes en toi cette histoire d'une grande violence, mais tu portes en toi aussi ce qui l'a précédé, c'est-à-dire les Amérindiens, ce qui a duré. Et dans ce qui a duré, il y a eu les révoltes, les combats, les insurrections, les victoires aussi. Et puis après, la capacité à surmonter tout ça et à construire une société paisible, une société multiculturelle, une société d'une grande diversité. Bon, j'ai eu la chance, mais là aussi, l'héritage de joie de ma maman est sans doute l'antidote. Parce que j'ai compris que je pouvais sombrer dans un naufrage de haine, de rage, de hargne. J'ai compris ça et j'ai compris que je ne voulais pas me perdre. Donc j'ai commencé à chercher des lueurs et des lumières. J'ai commencé à chercher. Et j'ai vraiment cherché parce que je ne suis pas tombée par hasard.
Et en même temps, vous dites que la France ne peut pas être quitte de l'esclavage. Non. Ça a été votre moteur pour faire passer cette loi et convaincre qu'il fallait solder quelque chose.
Absolument, parce que d'abord, j'ai découvert que c'était une blessure. La blessure que j'avais vécue, je l'ai vécue quand j'étais étudiante. Moi, ça faisait 20 ans. Quand je présente, je rédige cet exposé des motifs et cette proposition de loi, ça fait 20 ans que j'ai réglé mes comptes avec cette histoire. Ce que je viens de vous raconter, c'est ce que j'ai vécu au moment où je la découvre, où j'entre dedans par inadvertance, un pas devant l'autre et sans accompagnement, sans personne. C'est pour ça que je me suis autant battue pour que ce soit enseigné. Il ne faut pas que les gamins découvrent ça tout seuls. Il faut qu'ils aient un adulte avec eux. Il faut qu'ils soient ensemble. Il faut qu'ils en parlent. Il faut qu'ils purgent ça. Il faut pas que ça installe des blocs de haine dans leur cœur et dans leur esprit. Donc voilà, il faut que ce soit enseigné. Parce que l'enseignement a cet effet d'abord de maîtriser, de faire rendre gorge à cette horreur et de la faire expulser, y compris ces merveilles, parce qu'il y a des merveilles. Et parce que grâce à cette joie de vivre de ma maman, je me suis dit, même si c'est un système horrible, ça n'a pas pu être tout comme ça, tout en ténèbres. Ça n'a pas pu être tout sombre tout le temps comme ça. Ça n'a pas pu. Donc trouve les lueurs, trouve les lucarnes, trouve les lumières. Et j'ai cherché. Et j'ai trouvé les villageois de Champagné, dans leur cahier d'oléances ont demandé l'abolition. J'ai trouvé les Canuts de Lyon. Ouais. J'ai trouvé évidemment Victor Schœlcher. J'ai trouvé l'abbé Grégoire. J'ai trouvé les ouvriers de Paris avec leur pétition. J'ai trouvé des gens ordinaires, de grands philosophes et des gens ordinaires. J'ai trouvé. Et donc du coup, la France non plus n'est plus un bloc. L'Europe n'est plus un bloc. La France et l'Europe ont abrité ces pouvoirs qui étaient des pouvoirs d'État qui organisaient la traite et l'esclavage, mais aussi ces philosophes, mais aussi ces gens ordinaires qui ont dit « on n'accepte pas et vous ne pouvez pas faire ça en notre nom ». Donc, l'histoire est plus complexe et la France, c'est à la fois la France de la traite et de l'esclavage, c'est à la fois la France esclavagiste, mais c'est aussi la France abolitionniste, c'est aussi la France de la liberté. Donc il faut le solder, et on est en capacité de le solder.
Est-ce qu'au fond de vous-même, Christiane Taubira, qui est encore, on le sent, une idéaliste, voire une utopiste, est-ce qu'au fond vous croyez encore qu'on peut en finir un jour avec le racisme ? Surtout quand on voit aujourd'hui comment se cristallisent les communautarismes, la xénophobie, les pulsions identitaires. Est-ce qu'au fond, vous êtes persuadée qu'on peut encore changer là quelque chose ?
Je suis persuadée, et ça ne se fera pas tout seul, qu'on peut faire progresser la connaissance des autres, la connaissance de l'histoire du monde. Le monde n'a jamais été en noir et blanc, jamais, à aucun moment. On peut faire progresser la tolérance. On peut faire progresser l'acceptation de l'autre et on peut faire progresser mieux encore que la tolérance et l'acceptation de l'autre, mieux encore que l'altérité qui est juste la reconnaissance de l'existence de l'autre, on peut faire progresser la fraternité. Je suis absolument persuadée de ça. Maintenant, on les fera progresser. On ne va pas forcément éradiquer le racisme parce que je pense que même si j'étais à l'académie de pataphysique, je ne prétendrais pas qu'on puisse faire disparaître ni l'imbécilité, ni la vanité, ni le racisme qui se nourrit de tout cela.
Parlons pour conclure, Christiane Taubira, de l'exercice gouvernemental. Vous êtes ministre de la Justice, garde des Sceaux, et vous avez déjà deux lois importantes attachées à votre nom. À plusieurs reprises, vous avez affirmé que celle du mariage pour tous était une loi civilisationnelle. Est-ce que celle de la réforme pénale en est une ? Au final, est-ce que vous avez pris la place que vous souhaitiez dans cette gauche dite social-démocrate, alors que vous vouliez quitter la politique la veille de l'élection de François Hollande en 2012 ?
C'est vrai que j'avais décidé que ma vie politique était terminée. J'avais dit que je faisais cette campagne présidentielle parce qu'il était important. Je me sentais happée par un sentiment d'urgence, à savoir que la situation était trop difficile pour les gens et que je ne pouvais pas tourner la page de ma vie politique ainsi comme ça, par choix personnel. Donc mon choix personnel a été de faire cette campagne présidentielle. Et j'étais très claire, je l'ai dit très clairement, dès novembre 2011 à François Hollande. Je lui ai dit, je fais la campagne présidentielle parce que je pense qu'on ne peut pas laisser les Français encaisser un nouveau quinquennat comme celui qui vient de passer. On en répondra un jour. Donc je fais la campagne, mais que voilà, ma vie politique est finie. D'ailleurs, je n'ai pas d'enjeu de terrain, même si, bon, je n'ai pas d'enjeu de terrain, parce que j'ai toujours été élue députée à 66%. Mais voilà, je lui dis, je n'ai même pas d'enjeu de terrain, donc je peux faire la campagne ici, là, en France. Je peux rester pendant les 6 mois, je fais la campagne, mais après, je m'en vais. C'est terminé, je vais pour législatif. C'est vraiment fini, ma vie politique. Bon, donc c'était très clair. Et là encore, voilà, c'est... mais ce coup-là, je n'ai pas dit non. J'ai pas dit non.
Il vous a appelé personnellement, vous étiez chez
vous ? Oui, bien sûr. Oui, il m'a appelé. Non, en fait, j'étais à Paris, je repartais à Cayenne le lendemain. J'étais venue pour inaugurer, d'abord pour les cérémonies du 10 mai, et ensuite pour inaugurer un espace Daniel Mitterrand, puisque j'ai travaillé aussi avec Daniel Mitterrand,
avec
dans
la fondation.
Fondation France Liberté. Et je prenais l'avion le lendemain matin. Bon, donc il m'appelle, et c'est vrai que je n'ai pas pensé à dire non du tout.
Ça veut dire que l'idée d'être ministre et de changer quelque chose continuait d'exercer un attrait pour vous ?
Sans doute à mon insu. À aucun moment je n'ai pensé de ministre, même si pendant la campagne plusieurs fois les gens m'ont dit « bon, je vais voter pour que vous soyez au gouvernement ». Et au début je disais, d'ailleurs c'est des gens qui m'ont fait l'observation, au début je disais « ah non, moi ma vie politique est finie, là je fais la campagne, là on l'a fait, machin ». Et des gens autour de moi m'ont dit mais vous allez démobiliser l'électorat en disant cela ». Donc après, quand les gens me disaient « je vais voter mais pour vous, je vais voter pour que vous soyez au gouvernement », je faisais silence. Voilà. Donc, vouloir être ministre, c'est en étant dans une campagne électorale, c'est logique. C'est logique. Donc, c'est juste que je n'étais pas dans cette logique-là. J'avais fait le choix d'arrêter. Donc, pour moi, c'était juste ça. Juste ça. Donc, à aucun moment, je ne me suis installée dans l'idée. Et d'ailleurs, très clairement, j'ai fait la campagne jusqu'au bout. J'avais dit que j'allais la faire jusqu'au dernier jour. Je l'ai fait jusqu'au dernier jour. Je l'ai terminée le 4 mai, à minuit moins 10, à Aulnay, parce que j'ai fait la Seine-Saint-Denis toute la journée. Et j'ai pris l'avion le samedi matin. Donc, voilà, je l'ai terminée le vendredi, un peu avant minuit. J'ai pris l'avion le samedi matin. Je suis rentrée en Guyane. Ce qui m'a permis de voter, parce qu'en Guyane, on vote le samedi. Donc, au scrutin précédent, j'avais voté par procuration. Le samedi, j'ai voté moi-même. J'ai pu rentrer, donc je suis rentrée en Guyane. Pour moi, ça y est, j'avais rempli mon engagement. Je suis rentrée chez moi. Donc, voilà. Donc, ni pendant la campagne, ni après, ça n'était dans ma tête. Bon, maintenant, depuis que je suis ministre, les textes de loi que je porte, ce sont les engagements du président de la République. Et j'estime que ma responsabilité, c'est de faire que ces engagements soient appliqués le mieux possible. Donc, je fournis le travail de la plus haute qualité que je sois capable de fournir pour que cet engagement se traduise de la meilleure manière possible, parce que ce sont des engagements en direction des gens, en direction des citoyens. Concernant le mariage, en fait, c'est une formule que j'ai reprise, parce que j'ai reprise dans une question, d'ailleurs. Enfin, j'ai reprise dans une réponse. Moi, je ne le posais pas ainsi. Mais finalement, comme ça revenait de façon un peu récurrente, c'est un changement de civilisation, c'est un bouleversement de civilisation, moi, je parlais d'ébranlement. J'étais lucide très vite, hein, y compris quand des personnes croyaient « Oui, mais le mariage et l'adoption, ce n'est pas suffisant, il faut aller plus loin, etc. » Je disais « Mais posons-nous déjà sur le mariage et l'adoption. » Solennellement, l'engagement du président de la République, c'est le mariage et l'adoption. Quoi que nous pensions, et j'ai eu l'occasion de m'exprimer par la suite, notamment sur la procréation médicalement assistée, quoi que nous pensions, là, le mariage et l'adoption, c'est déjà un ébranlement. Parce que ça bouleverse des représentations. Parce que dans ce pays laïque, la présence du mariage religieux a reculé, mais n'a jamais disparu. Et donc, a encore des traces profondes dans l'esprit de nombreuses personnes. Le fait que le mariage civil soit instauré depuis 1791 est c'est une chose étrangère à l'esprit de nombreuses personnes. Donc pour moi, je parlais d'ébranlement. Bon. Et puis, c'est revenu civilisation. Et quand je me suis exprimée sur la civilisation, j'ai dit au sens d'Aimé Césaire, d'une civilisation qui ruse avec ses principes et qui est donc une civilisation moribonde. De ce point de vue, oui, parce que le mariage pour les couples de même sexe, c'est tout simplement un enjeu d'égalité. C'est tout simplement mettre un terme à l'interdit d'accès à une institution républicaine pour une catégorie de citoyens. Non pas sur la base d'actes qu'ils auraient commis et qui les auraient déchus de leurs droits, mais sur la base de leur orientation sexuelle. C'est juste inadmissible. Donc de ce point de vue-là, oui, c'est civilisationnel au sens où c'est un acte que la puissance publique pose pour dire que tous les citoyens sont égaux et que la passion française, qui a été le fondement même de la constitution de la nation française en tant que nation civique, en tant que nation en communauté de destin, en tant que nation où chaque citoyen est libre et lucide et accepte les règles communes, cet acte d'égalité vis-à-vis de citoyens qui étaient exclus sur une base inadmissible, illégal et illégitime, cet acte-là, nous le posons, et de ce point de vue, c'est civilisationnel, au sens où nous cessons de ruser avec nos principes.
Comme le dit Aimé Césaire.
Voilà, comme le dit. Pour le reste, voilà, j'essaie de faire mon travail le mieux possible.
Comment expliquez-vous?
Pour bien dormir, même le peu de temps que je dors.
Avec le recul, Christiane Taubira, comment expliquez-vous que la France soit au fond aussi en retard sur les mœurs, sur la pensée? Nous sommes quand même l'un des derniers pays à accepter cette idée qui a fait tant de débats.
La France est en avance et en retard, parce que la France, ça n'est pas, voilà, ce sont des citoyens avec des positionnements. Il y a des lignes, y compris sur la réforme pénale, qui, je crois aussi, sera une grande et belle réforme, qui, je crois aussi, dans sa mise en œuvre, va transformer des représentations, va transformer le regard, va transformer des relations sociales, va transformer des personnes en tant que telles, parce que va leur redonner la main sur leur propre vie, sur leur propre destinée personnelle. Donc ça aussi, je crois que ce sera une grande réforme. En France, il y a des personnes qui sont très, très désireuses et très allantes. Et en même temps, il y a des personnes qui sont très crispées, très agrippées sur des représentations archaïques. Et quand je dis archaïque, je caractérise, je ne qualifie pas. Hein, je ne porte pas un jugement de valeur. Je caractérise, je dis que c'est une vision ancienne. Est très ancienne, parce que dans la législation française, dans l'histoire de la France, et comme je l'ai illustré dans mon intervention à l'Assemblée nationale, y compris la droite chrétienne, a lutté contre l'incarcération, a lutté pour l'insertion, a lutté pour la punition du coupable, mais d'une certaine façon pour sa rédemption, pour son amendement, c'est-à-dire dans la société, avant même qu'elle soit laïque, mais aussi après qu'elle le soit devenue, pour que... on sanctionne, on punisse, qu'on protège la victime, qu'on répare le préjudice subi par la victime, mais qu'en même temps, on considère que celui, le condamné, lui, il reviendra dans la société et qu'il faut qu'il y revienne dans de bonnes conditions. Il ne faut pas qu'il soit écrasé, il ne faut pas qu'il soit détruit, il ne faut pas qu'il soit humilié, parce que de toute façon, en plus, on le rend dangereux en lui imposant ses sentiments négatifs. Donc, même la droite chrétienne, même la droite laïque, même la droite... a su lutter pour ça dans le passé. Il y a de grandes figures de droite qui ont su le faire. Je pense à Béranger, je pense à d'autres hommes, donc, y compris des hommes politiques. Donc, la droite a su penser ça. Aujourd'hui, elle est tellement exsangue, tellement asséchée, tellement mimétique, c'est-à-dire dans l'imitation de ceux qui semblent avoir le vent en poupe, qu'elle ne sait plus produire ça et qu'elle a perdu son adresse, qu'elle a perdu son acte de naissance, qu'elle a perdu des tas de choses.
Est-ce que pour autant la gauche, elle, a conservé cette idée, disons, plus libératrice, plus préventive, qui l'a caractérisée autrefois sur la grande idée
La gauche a porté de façon plus constante et plus massive cet héritage-là. Mais je dois reconnaître que malheureusement, la gauche contemporaine, elle est traversée elle-même par un doute sur elle-même, oui. Un doute existentiel, réellement, qui est presque même un doute ontologique, au sens où elle ne s'interroge plus sur ses origines et sur ce qui a construit toute son histoire et toute sa trajectoire, qu'elle est dans un temps plus court, elle est dans un temps présent. Et du coup, elle peut par capillarité se laisser imprégner par des idées qui ne relèvent ni de son corpus doctrinal, ni de son héritage d'action publique, ni même de ses périodes d'interrogation sur elle-même. Elle a eu des interrogations sur elle-même. Donc, La gauche d'aujourd'hui a, je crois, entre autres, un problème de temporalité. Elle a un problème de temporalité. Est-ce qu'elle ne vit qu'au quotidien, au rythme aujourd'hui des réseaux sociaux, de l'information continue, et donc d'une pensée qui n'est plus une pensée parce qu'elle est juste une répétition et la plus sommaire possible, ou est-ce que elle s'inscrit dans le long terme? Est-ce qu'elle se réinscrit dans sa trajectoire? Est-ce qu'à nouveau, elle renoue avec la pensée? Ça, c'est un enjeu colossal de la gauche. Et c'est un enjeu d'identité de la gauche.
Et pendant le
Mais
débat...
Mais pas seulement d'identité, de fertilité de la gauche, c'est-à-dire de capacité d'action. Si la gauche ne retrouve pas ça, si elle ne retrouve pas le courage de s'interroger elle-même sur tout cela, sur sa propre identité, sur son essence, sur son existence, si elle ne fait pas cet exercice, si elle ne se résout pas cet exercice ontologique, elle se sera perdue elle-même. Et comme disait Césaire, elle aura tiré vers elle les draps des plus sombres ténèbres.
Christiane Taubira, quand vous avez François Hollande en face de vous, quand vous êtes obligé de parler sur le fond des choses, on ne fait pas passer une loi comme le mariage pour tous ou la réforme pénale sans avoir une discussion de fond. Est-ce que vous voyez une différence entre ce que vous pensez, ce que lui pense, lui en tant que président, vous en tant que ministre? Est-ce qu'il y a une communauté de pensée qui fasse qu'aujourd'hui, vous puissiez aller dans la direction que vous souhaitez?
Il y a une communauté de pensée dans la mesure où il y a les mêmes ressorts et les mêmes motivations et le même engagement à faire pour le plus grand nombre, pour l'intérêt général, à faire pour améliorer, alors le plus grand nombre, non pas en termes de masse, mais d'individus, pour améliorer le quotidien et les perspectives possibles, c'est-à-dire l'avenir que l'on peut mettre à la portée des personnes, des individus, des citoyens. Donc de ça, oui. Pour le reste, non, il y a des nuances.
Vous engueulez souvent, vous
confrontez? Ah non, mais
je ne
peux pas m'engueuler avec le président parce que j'ai du respect pour le président. J'ai du respect pour la personne et pour la fonction. C'est vrai que j'ai un tempérament très vif, mais je ne m'engueule pas avec le président. Ça ne viendrait pas à l'esprit. C'est lui qui a été élu. Donc c'est lui qui a le dernier mot, forcément. Je plaide beaucoup. Donc je reviens à la charge, je ne renouvelle pas les arguments dans la mesure où je ne suis pas dans une opération tactique. J'explicite davantage les mêmes arguments.
J'imagine que...
Je développe. Et quand j'ai bien développé, et lorsqu'il a tranché, je lui dis, bon voilà, je te dis, je continue à penser ça, mais bien entendu, c'est ton point de vue qui vaudra.
Une dernière question, Christiane Taubira, pour clôturer cette semaine avec vous. Est-ce que vous avez ressenti dans l'exercice du pouvoir, surtout celui de ministre, une solitude?
Non, je suis pas... Pour moi, la solitude est un choix. Je choisis des moments de solitude, je choisis. Et je peux me battre comme une tigresse pour préserver des moments de solitude. Non, la solitude au sens de l'isolement, c'est-à-dire être marginalisé, être...
Parce que vous êtes impopulaire, parce que vous critiquez le gouvernement, parce que ceci, parce que cela. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous sentez... seul?
Impopulaire chez les gens que je n'aime pas, ça ne me dérange absolument pas, et même ça me réconforte et ça me conforte. J'ai toujours eu beaucoup, parce que je me suis toujours beaucoup déplacée, j'ai toujours eu des personnes. Alors, il y a des moments où on a réussi à faire, à donner de moi une image qui ne correspond absolument pas à ma personne. Donc, il y a eu, moi j'ai affronté des manifestations de haine, hein, vraiment de haine, y compris de haine raciste. Mais j'ai toujours eu des personnes qui m'ont dit des choses absolument fabuleuses, j'ai toujours eu des accueils absolument chaleureux dans des tas d'endroits. Donc impopulaire, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, de toute façon, je ne serai jamais...
Vous êtes très populaire et impopulaire,
oui,
les deux.
Oui, je ne serai jamais populaire par démagogie. Je ne ferai pas de concessions sur l'essentiel. Jamais. Je ne vais pas tordre ma conscience. Je n'ai pas de perspective de carrière. Je n'ai pas d'ambition personnelle. J'exerce une responsabilité qui est très belle et très grande. Je suis très, très heureuse de le faire. Je suis très fière de le faire. J'essaie de le faire le mieux possible parce que je ne veux pas que mes enfants aient honte de moi. Je ne veux pas que mes petits-enfants aient honte de moi. Je ne veux pas que qui que ce soit qui m'ait connu, qui m'ait aimé ou qui descende de moi ait un jour à se dissimuler ou à s'excuser de ce que j'ai fait. Donc, j'ai cette conscience à vif au quotidien dans chacun de mes actes, chacune de mes décisions. Mais sinon, non, je ne gère pas de carrière, je ne suis pas dans un après. L'après, ça va être voilà, construire ma très grande bibliothèque à la campagne chez moi, comme j'en rêve depuis plusieurs années.
À côté d'un lac
D'une crique, oui. Donc, du coup, ça me donne une liberté extraordinaire. Extraordinaire. Ce que j'accepte, je l'accepte pour le bien commun. Pour le bien commun. Lorsque je défends un point de vue et que ce point de vue ne triomphe pas, mais je n'ai aucune expérience où ce point de vue a été contrecarré. Si ça m'arrivait, je renoncerais. Je vous le dis très clairement. Si je me retrouvais dans la situation où je devrais faire des choses qui soient contraires à ce que je pense, contraires, non pas insuffisamment, insuffisamment entier comme ce que je voudrais, mais contraires à ce que je pense, je ne le ferais pas. Je ne le ferai pas. Parce que, voilà, je n'ai pas d'enjeu, ni matériel, ni professionnel, ni de carrière. Je n'ai pas d'enjeu, là. Je n'ai pas d'enjeu. Donc, voilà. Et j'ai une conscience. J'ai été élevée dans le respect du nom NOM, cette fois-ci. Voilà. De ce qu'on est, de sa parole. Ma parole, c'est moi. C'est mon intégrité, c'est ma dignité. Mon visage, c'est moi. Mon nom, c'est moi. Donc, voilà, parce que peut-être famille pauvre, peut-être famille vivant l'exclusion, peut-être famille vivant la stigmatisation sociale, le nom est important chez nous. C'est notre patrimoine. Donc, moi, mon action, c'est mon nom. Par conséquent, je fais le mieux possible et peu importe la popularité. Peu importe vraiment, parce que voilà, je n'ai pas de vanité. Non seulement je n'ai pas de vanité, mais il y a toujours tellement de personnes qui me disent de si belles choses.
Merci Christiane Taubira.
Merci
d'avoir passé la semaine avec nous.
Fin de cette rencontre de Jean-Michel Dian avec Christiane Taubira. À voix nue. Attaché d'émission, Claire Poinsignon. Prise de son, Clément Daté. Réalisation, Charles Trou. Coordination, Sandrine Trainer. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et ce podcast pendant un an sur franceculture.fr. Et dès lundi, une nouvelle rencontre.